Nous sommes le jeudi 23 octobre. Il est 21h sur Radio Canus 102.2. Bienvenue dans le nerf de la game. Et vous aurez le générique dans un instant.
C'est dur de tout faire en même temps. Hein.
C'est un peu compliqué, effectivement. C'est là qu'on voit qu'il y en a un qui sert à quelque chose, des fois.
Non, il sert à meubler pendant que tu lances la musique, en fait.
Exactement. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine, ou presque, retrouvez un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Bonsoir Bettina.
Salut Romain.
Bettina, donc instigatrice de l'événement Indie Game Lyon, qui prépare la 7e édition prévue en 2026.
Oui.
Et donc avec qui on va pallier l'absence de notre maître de cérémonie habituel. Ce qui risque d'être joyeux. Voilà, donc effectivement, notre Xavier n'est pas là ce soir. Il nous a lâchement abandonné pour aller se jeter contre les murs à un concert de punk. Bon, on verra dans quel état on le retrouve.
Chacun ses préférences. Je ne dirais pas que je suis vexé, mais bon.
Chacun ses priorités, je dirais. Mais donc voilà. Donc ouais, cette émission donc que vous pouvez retrouver comme toutes les semaines hébergée sur. On remercie d'ailleurs le collectif Presse F5 pour l'hébergement de nos replays. Cherchez Presse F5, le nerf de la game, et vous trouverez nos émissions précédentes. Et du coup voilà. Donc cette semaine, on va un petit peu parler. On va un petit peu parler d'un événement qui s'est terminé il y a pas ce week-end dernier, mais le week-end d'avant, et qui va nous permettre de parler de façon un petit peu plus globale, finalement, de ce genre d'événement qu'on appelle les Game Jam, dont on avait déjà parlé dans l'émission, parce qu'on avait déjà reçu, Paul, un des membres organisateurs des Scientific Game Jam, notamment, mais pas que. Et du coup, voilà, ce sera l'occasion un petit peu de parler de ça, notamment de l'événement qui s'est terminé donc à l'occasion des rendez-vous de l'histoire de Blois, le 11 et 12 octobre.
Oui, c'est ça.
Du 10 au 12, je crois que c'était ça.
Du 10 au 12.
Donc voilà, on a deux semaines d'écart, mais mais ça ne va pas nous empêcher d'en parler. Mais avant ça. Donc on va commencer, comme c'est maintenant la tradition, par les news locales que tu nous as préparées, Bettina.
Oui, et aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu qui est en cours de développement. C'est un jeu du studio Morbleu Games qui s'appelle Epic Musical Chairs. C'est un jeu de chaises musicales épique.
Il était présent à l'Indie Game Lyon cette année. Hein.
Exactement. Okay. Ouais. En général, je vais souvent vous parler de projets que je connais, donc des projets que j'ai pu voir à Indie Game Lyon, enfin qu'on a pu accueillir à Indie Game Lyon. Donc c'est un jeu, comme je le disais, de chaises musicales épiques. Il faut se battre pour la dernière chaise. On peut jouer en local ou en ligne. Les personnages jouables sont des sorciers, sorcières loufoques qu'on peut choisir selon leur style musical, rock, folk, jazz, classique, etc. La musique est évidemment centrale puisque c'est un jeu de chaises musicales, puisque lorsqu'elle s'arrête, il faut se ruer sur les chaises. On peut pousser ses adversaires à courte portée avec notre voix et on peut propulser des objets pour les atteindre de loin. Il y a aussi des pouvoirs à récupérer qui sont parachutés dans l'arène par moment. Donc l'idéal, c'est de faire tomber ses concurrents et encore mieux de les faire tomber dans les rivières. Comme ça, on les éloigne fortement des chaises et donc de la victoire. Tous les moyens sont bons pour atteindre les chaises avant les autres. Le concept repose sur une prise en main rapide et accessible. L'équipe prévoit une dizaine d'arènes variées. Actuellement, il est indiqué sur la page Steam que la date de sortie est prévue pour 2026 sans précision particulière. Alors bon, on imagine que ça peut bouger, hein. Les aléas de la production de jeux vidéo font que parfois une prod peut prendre plus ou moins de retard. On avait pu en discuter justement avec nos invités de la semaine dernière, hein, qui s'imaginaient terminer leur jeu beaucoup plus vite que la réalité.
C'est ça.
et puis qui sait, si jamais ils dégotent des financements ou un éditeur, ça peut aussi tout bousculer. Mais voilà, pour l'instant, c'est annoncé pour 2026. Vous pouvez suivre Morbleu Games sur les réseaux sociaux si vous voulez un peu suivre l'avancement du projet et mettre en wishlist le jeu sur Steam pour apporter votre soutien, si le cœur vous en dit, et être prévenu comme ça de sa prochaine sortie.
Juste petite question, tu disais repousser les autres avec notre voix, c'est-à-dire qu'on utilise un micro ou c'est
non, c'est du chant. En fait, le personnage, okay, le personnage va juste chanter/slash crier.
Ok, c'est pas à nous de sortir un micro ou de crier dans le contrôleur comme je crois que c'est les contrôleurs PlayStation qui ont,
qui ont
cette capacité en fait à sentir les vibrations ou quoi.
Mais je sais pas à quel point c'est compliqué à développer un truc comme ça.
Oui, j'imagine que ça demande quand même de la réactivité par rapport à ça. Mais c'est vrai que j'avais déjà vu des jeux un petit peu comme ça où la voix en tout cas est prise en compte, ou en tout cas le volume que tu fais est pris en compte dans le jeu.
Ouais.
Que ce soit des jeux d'horreur comme si t'as ton micro de branché et que tu cries, tu réagis, bah du coup la créature qui te court après elle t'entend.
Ouais.
Ça peut être forcément si tu stream le jeu ça marche pas. Mais si tu parles à des gens comme ça, bon,
si tu parles à ton chat, bon ouais.
Exactement, ça marche moins bien. Mais ok. Ça m'a fait penser à ça parce que ça aurait pu être d'autant plus rigolo comme mécanique.
Mais ouais, non. Mais j'ai pas joué à de jeux où il y avait une mécanique de micro qui considère ta voix depuis la Nintendo DS, en fait.
Oui, c'est vrai. Ouais, mais je me souviens aussi je crois que c'était un jeu sur smartphone où tu faisais du bruit pour faire, en fait, en fonction la courbe, quand tu enregistres du son, ça fait une courbe un petit peu sinusoïdale, un truc comme ça, ça monte, ça descend, et du coup, tu faisais du bruit pour faire monter, descendre, tu faisais progresser une balle en faisant monter justement cette...
J'ai beaucoup vu de vidéos sur les réseaux sociaux de gens qui se filmaient en train de jouer à ce genre de jeu, ça avait l'air très drôle.
Oui, voilà, ça doit être rigolo, beaucoup moins pour les voisins, mais ça doit être rigolo. À faire en tout cas.
Oui. J'enchaîne sans aucune transition avec une triste nouvelle. Je vais pas épiloguer parce que je risque d'être un peu émue et voilà, c'est pas forcément très agréable non plus, mais je voulais quand même dire un mot sur la disparition de David Brunel. David nous a quittés le 15 octobre. Il était très actif dans la communauté game dev de Lyon et même plus largement francophone. Il était très souvent présent dans les événements liés à la création de jeux vidéo. Il était notamment engagé dans les associations La Science Entre en Jeu et Lyon Game Dev, où il venait justement d'entrer au conseil d'administration et souhaitait démarrer plusieurs projets au service de la communauté. David était un des vétérans des Game Jam organisés par La Science Entre en Jeu. Il a contribué à la création de nombreux jeux durant ces jams que vous pouvez retrouver sur la page itch.io de la Scientific Game Jam. C'est un peu aussi une manière détournée de faire perdurer son souvenir quelque part. Il avait prévu de participer au Ludocamp 2025 à Avignon, dont on reparlera tout à l'heure. Il était à la dernière Scientific Game Jam des rendez-vous de l'histoire, dont on a prévu de vous parler ce soir, quelques jours avant sa disparition. Et c'est d'autant plus pour ça que je voulais aussi lui rendre un petit hommage, puisque justement on va parler des événements auxquels il a participé. Voilà, nous apportons évidemment tout notre soutien à ses proches et à sa famille.
Ok, effectivement, c'est...
Oui, voilà, ça particulièrement... plombe un petit peu l'ambiance.
C'est pas forcément évident de repartir derrière, effectivement. Mais oui, comme tu disais, quelqu'un qui était présent jusqu'au dernier événement dont on avait prévu de parler. Il a participé au jeu qui s'appelait La Chamade.
C'est ça.
Mais du coup, triste nouvelle pour le milieu des game jams, mais pas que.
Oui. Bah, j'ai vu après, du coup, sur les réseaux et en parlant un petit peu avec les personnes, pareil, de la commu game dev francophone, on va dire, que les gens de East Game le connaissaient aussi. Donc, je pense qu'il était, comme je vous disais, il était un peu présent partout. À chaque fois, je m'étonnais de le voir aussi. Il allait au Game Camp, puis voilà, il faisait énormément de choses.
Extrêmement présent dans ces communautés-là.
Ouais.
Ok.
Eh bien, si tu veux, je peux enchaîner avec un petit mot sur la Game Jam des rendez-vous de l'histoire.
Si tu veux, ça peut nous déclencher un petit peu le truc, parce que moi, j'ai un petit peu, je sais pas si on pourra parler des jeux en question et du résultat un petit peu aussi de l'événement.
Tout à fait. Donc, c'était la quatrième édition de la Game Jam qui se passe dans le cadre des rendez-vous de l'histoire. Les rendez-vous de l'histoire, c'est un festival qui se passe à Blois, dont la programmation contient entre autres un salon du livre, des débats, des conférences et des projections de films. Donc ça, là, le week-end du 26 au 28 septembre, c'était la Game Jam qui se déroulait en amont. Et pendant le week-end du festival, donc du 10 au 12 octobre, il y a eu la présentation des jeux créés et la remise des prix. Et le thème de la jam de cette année, c'était la France.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Alors moi, j'ai pas eu le temps d'aller voir les jeux. Du coup, je compte un peu sur toi pour en parler. Et est-ce que tu as ressenti la France à travers les jeux?
Un peu, oui, effectivement. Effectivement, ça s'est senti sur plein de façons différentes. C'est ça qui était intéressant. Je veux juste mentionner que dans les organisateurs et organisatrices, on avait notamment quelqu'un que je connais par son travail sur YouTube, William Brou. Oui. Qui est donc enseignant en histoire géo, membre des Clionautes et également donc vidéaste sur sa chaîne Histoire en jeu, que je connais parce que il a effectivement fait pas mal de vidéos finalement sur en essayant en fait de lier les jeux, les thèmes des jeux et le contenu finalement historique présenté dans les jeux avec à le rapprocher de la vraie histoire entre guillemets et de voir comment est-ce que certaines façons d'aborder l'histoire peuvent être utilisées ou seraient utilisables dans un cadre pédagogique ou non. Il avait fait notamment une vidéo relativement récemment sur les jeux vidéo qui abordent la Shoah. Et une vidéo pas facile évidemment, et avec des jeux qui l'abordent de plein de façons différentes, que ce soit dans les jeux narratifs, que ce soit un élément dans un contexte de jeu sur la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit, voilà, il y a plein de façons différentes, enfin les jeux vidéo ont abordé la question de façon assez différente. Il avait fait une série de vidéos, on va dire à visée humoristique, en se plaçant dans la peau de Louis XVI. Et en se demandant, en se disant, ok, ma vie et notamment mon décès ont été mis en scène dans plusieurs jeux vidéo. À quel point ils avaient, à quel point ils ont respecté la réalité, notamment dans Assassin's Creed Unity, notamment dans le jeu We the Revolution, qui met en scène dans lequel on joue un juge pendant la Révolution française, qui doit notamment donner la sentence au citoyen Louis Capet, parce que c'est comme ça qu'il est appelé, puisqu'il déchute son titre de roi de France à ce moment-là, et de roi des Français. Bref, c'est quelqu'un que je connaissais pour ça, parce qu'il a une façon d'aborder le truc, que je trouve très intéressante. Et je sais pas si c'est la première fois, je t'avoue, je pas suivi s'il avait déjà participé.
William, ça fait longtemps qu'il participe au Scientific Game Jam et au Rendez-vous de l'Histoire, enfin à la Game Jam qui se passe dans les Rendez-vous de l'Histoire. Je sais qu'il stream aussi.
Ça m'est arrivé de tomber dessus,
Et il stream les jeux des jams, justement. J'ai pas en tête tout ce qu'il fait, mais oui, ça fait un moment qu'il est quand même assez... impliqué, c'est pas le bon mot, mais
présent,
assez présent sur les événements qu'organise la Science Entre en Jeu. Et moi, je l'avais invité à Indie Game Lyon 3 ou 4, je crois, 3, puisque c'est la dernière qu'on avait fait à la MJC Mon Plaisir.
D'accord.
Pour justement faire une conférence qu'il avait intitulée Et si tous les jeux portaient un message, je crois que c'est ça. Et qui est retrouvable sur le compte YouTube de Indie Game Lyon.
Si parfait, jusqu'au bout. non, mais ouais, vraiment que voilà, je trouve intéressant en tout cas son approche de tout ça et c'est voilà, il faisait quel était son rôle spécifiquement dans le cette fois-ci, je ne sais plus.
Je sais pas.
En tout cas, il est cité dans les organisateurs et organisatrices.
Oui, mais c'est donc, ça, il participe quand même assez largement.
Mais pas en jury ou ce genre de... Pas dans ce rôle-là.
Non. Il a peut-être été un moment, mais là, c'est au-delà de ça. Vraiment, il participe un peu de manière plus générale à l'événement, et notamment, voilà, comme je disais, par ses streams, etc.
Ok. Et du coup, ouais, les jeux, puisque c'est un peu le sujet. Il y a 8 jeux qui ont été développés pour l'occasion. Le jeu qui a obtenu le grand prix du jury s'appelle La Veste et le Choléra. Parce que ce serait dommage de ne pas en profiter pour faire des jeux de mots aussi dans les titres des jeux. Oui, donc c'est toute une série de jeux qui sont disponibles sur itch.io, sur la page globalement de la Scientific Game Jam, je crois.
Oui.
Où on peut retrouver donc les liens vers les pages. Pour faire un peu rapidement le pitch de La Veste et le Choléra, on est nommé préfet du Rhône.
Okay.
Donc on doit gérer les difficultés de la ville de Lyon. Et je pense qu'on est globalement au début de la Révolution industrielle. Puisqu'on doit gérer notamment la salubrité de la ville, prendre des décisions pour... les égouts pour ce genre de choses, pour les conditions de travail également, pour notamment les canuts, mm-hmm. pour un petit peu gérer la pauvreté extrêmement présente dans certains quartiers ouvriers de Lyon. Donc voilà, globalement, on a comme objectif, et les Lyonnais comptent sur nous, mm-hmm. pour transformer la ville, en faire une ville moderne et saine du 19e siècle. Donc on doit prendre des décisions qui sont effectivement les bonnes en termes de santé publique, de salubrité, ouais. tout en ne s'aliénant pas finalement le mécontentement des habitants en prenant des décisions qui seraient les bonnes en termes de santé publique, mais qui les obligeraient par exemple à devoir, pour tout ce qui est la caste des bouchers par exemple, qui devraient aller abattre ces animaux à l'extérieur de la ville et plus en plein milieu de la ville avec tout ce que ça implique de gestion des déchets organiques. Donc voilà, enfin c'est un petit peu cette vision là du jeu. On doit prendre des décisions et en voir les conséquences. Moi j'ai essayé le jeu, je me suis fait virer relativement vite. Parce que j'ai essayé de prendre les bonnes, entre gros guillemets, décisions, celles qui sont avec le recul et puis les connaissances qu'on peut avoir finalement au niveau de la santé, au niveau de l'hygiène, ce genre de choses. Et puis au niveau d'une certaine sensibilité, évidemment politique aussi, sur les entreprises, on va les contraindre à respecter l'environnement, on va les contraindre à respecter les droits des travailleurs. Bon, c'est tout un ensemble de choses en fait qui a des conséquences dans le jeu et qui m'ont vu ne pas terminer mon mandat de préfet parce que bon bah il faut ménager la chèvre et le chou et c'est un petit peu le sujet du jeu. On est dans un contexte historique aussi où certaines décisions étaient soutenues de façon différente et étaient vécues aussi de façon différente, et certaines décisions qui peuvent être encore une fois les bonnes en termes d'environnement ou ce qu'on veut ont comme conséquence directe et sans soutien pour autant de l'État derrière, de faire perdre leur travail aux gens, par exemple.
Ouais.
Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qu'il faut gérer dans ce jeu qui s'appelle La Veste et le Choléra, qui est donc celui qui a obtenu le grand prix du jury cette année par l'équipe Bagod. Donc voilà, je sais plus quel était le... Il faudrait que je trouve un moyen d'accéder à la page du truc pour citer les gens.
En plus, ils sont potentiellement nombreux.
Oui, ils sont quand même quelques-uns, effectivement, oui, à chaque fois. Donc voilà. Un autre jeu que j'avais essayé, que j'ai beaucoup aimé, s'appelle Héritage, aux sources de notre langue. Donc c'est un jeu qui s'intéresse aux évolutions du français tel qu'on le parle et tel qu'on l'entend. Donc on va se retrouver à écouter trois phrases qui ont été prononcées à différents moments, à différents moments de l'histoire de France et donc de l'histoire de la langue.
Époques.
À différentes époques, effectivement, dans différents lieux. Et on va nous demander donc de trouver l'époque. On va nous demander de trouver globalement la ville qui est cité dans la phrase, et on va lui demander de citer de trouver le sujet de la phrase. Et pour ça, on va avoir une liste de noms, de mots, et leur évolution. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, le mot château, d'où il vient, comment est-ce qu'il a évolué, etc. Mmh. On a le mot carrefour, donc qui vient de... je sais plus exactement le mot, c'était... quadri quelque chose qui devient en fait le mot carrefour, mais qui signifiait en fait la réunion de quatre routes. Donc vraiment, on va dire étymologiquement, c'est ça l'origine du mot. Donc voilà, on voit l'évolution en fait des termes, d'où vient le mot monastère, et qu'est-ce qu'il est, voilà, comment est-ce qu'il, par quelles étapes il est passé dans la langue. Et donc, on doit écouter quelqu'un prononcer en fait une phrase, donc dans ce qui ressemble beaucoup à du latin au départ, puisque je crois que la première période concernée c'est 450 après Jésus-Christ. Après on a 600, 900, 1200, un truc comme ça.
Okay.
Et donc voilà, on doit trouver en fonction des mots utilisés, donc de ce qu'on devine des mots par rapport à la liste de mots qu'on a et le contexte dans lequel ils sont présentés. Le nom des lieux également, puisqu'on a différentes cartes de France avec le nom des villes et l'évolution du nom des villes. Donc on connaît un petit peu maintenant les noms latins et romains, notamment, des villes, que ce soit Lyon, Lugdunum, Strasbourg, c'était Argentorum ou un truc dans le genre.
Okay.
Bref, et donc on a l'évolution des noms des villes jusqu'en l'an 2000, donc les noms tels qu'ils sont aujourd'hui. Donc voilà, et on doit écouter les phrases et trouver justement le sujet de la phrase, etc. Et ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que l'évolution de la langue, moi, c'est un truc que ça m'a toujours intéressé.
Ouais.
Et de voir effectivement l'évolution des mots, comment les mots changent et comment les mots, leur orthographe, ou même leur sens des fois, mais là spécifiquement, on est vraiment sur l'orthographe. Et en plus de ça, c'est pas un jeu très, je dirais, très accessible puisque c'est uniquement du.
Oui,
uniquement
c'est
de
l'audio,
la voix, ouais. C'est uniquement de l'audio. Et après, on doit en fait trouver la combinaison année, lieu, sujet du sujet de la phrase. Et donc, ouais, il y a trois phrases comme ça à trouver pour valider le jeu. Encore une fois, on parle de jeux de game jam.
Oui.
Qui sont donc le temps de développement est très court.
Oui, c'est un week-end.
Exactement. Ouais. Et là, en plus de ça, il y a quelque chose au niveau du style des graphismes qui fait très parchemin.
Okay.
Donc ça rend plutôt pas mal. J'ai bien aimé celui-ci aussi. Lui a obtenu la mention innovation.
Ok.
Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? J'ai fait le coup de cœur du public qui s'appelle Paysan Dur Labeur. Et alors, j'ai eu plus de mal à accrocher, puisqu'en fait, on doit. Alors, c'est comme ces jeux, c'est cliqueur. En fait, c'est un jeu où on doit cliquer pour, on va dire, accumuler de la ressource. Sauf que cliquer, ça nous coûte de l'énergie. Donc, voilà. Et le but, c'est d'arriver à avoir le meilleur, on va dire, récupérer le maximum de ressources avant de ne plus avoir d'énergie qui amène la fin du jeu. Et de temps en temps, on a des événements qui arrivent et on doit prendre des décisions qui peuvent être, qui peuvent nous emmener dans le bon sens ou pas. Et donc, globalement, donc ouais, c'est un cliqueur médiéval où tu es un paysan coincé entre champ, impôt et sermon, parce que tu dois aussi aller à l'église. Plus tu cliques, plus tu bosses, mais attention, ton seigneur prend sa part et l'église ne manque jamais l'occasion de te rappeler à l'ordre si tu ne fais pas si tu ne suis pas les bons préceptes. Donc entre sueur, corvée et injustice, découvre la vie médiévale et tente de survivre à ce monde et sauver ta famille. Ça fait beaucoup de choses sur tes épaules.
Ouais.
Voilà. En bref, récolte, prie et obéis.
Okay.
Et recommence jusqu'à la mort.
Ah,
voilà. Voilà. Donc pour te montrer un peu le quotidien entre guillemets d'une certaine classe de la population à une certaine période. Donc tu comprendras qu'être paysan au Moyen-Âge, c'est vivre dans un monde dominé par les seigneurs et encadré par l'Église. C'était le projet, en tout cas, le sujet du truc. Et quand je dis que j'ai eu un peu de mal à accrocher, c'est que j'ai trouvé peut-être les conséquences des fois un peu injustes. En fait, tu cliques, tu sais pas forcément ce que voilà, on te dit d'aller à l'église ou de payer tes impôts machin. Et puis si tu suis pas forcément le bon chemin, la partie s'arrête vite parce que t'as voilà.
Oui.
Mais l'idée, en tout cas, voilà, la façon de représenter ça.
Les jeux de jam ont souvent des soucis d'équilibrage, c'est normal, ils n'ont pas le temps.
Et puis là, y a un message, dans le sens où c'est censé te montrer justement l'injustice de tout ça.
Oui,
et le fait de ne pas y arriver, en fait, ça fait partie du truc, en fait. C'est le deal, c'est que de toute façon, tu ne vas pas y arriver. c'est ça que c'est censé te montrer.
Ouais.
Donc. Mais par contre, niveau visuel, je trouve très joli. Celui-ci, il a une très très jolie image de, on va dire, tu sais, comme si c'était la jaquette d'une boîte de jeu. Ils ont fait un truc assez sympa. Dans le jeu, c'est beaucoup, c'est plus classique jeu de game jam où tu as encore une fois peu de temps pour développer quelque chose. Mais j'avais bien aimé ce truc-là. Et il a le coup de cœur du public et il a aussi la mention satire.
Ouais.
Satire politique, satire ce qu'on veut. Donc voilà. Et alors c'est un peu les seuls que j'ai fait. J'ai jeté un œil à 1848, le making of, qui va nous situer du coup la révolution de 1848, nous placer. Alors le pitch, c'est prenez part à la révolution de 1848, menez le pays dans la direction de votre choix. Participer au plus près à la lutte entre conservateurs et révolutionnaires qui déchire le pays en ce début d'année 1848, qui verra donc la fin de... Qui c'est qui se fait virer?
Je suis super nul en histoire.
Je vais dire une bêtise. Du coup, je vais pas le dire.
Ouais.
Mais voilà, il y a un moment où... C'est une période où il y a une révolution, effectivement. Et donc, j'ai joué rapidement.
Ouais.
Tu te retrouves en fait à un moment où tu arrives, on va dire, à un poste où tu peux prendre des décisions, où tu peux, en tout cas, tu es à l'Assemblée, donc tu peux un petit peu pousser. Est-ce que tu veux le suffrage universel? Est-ce que tu veux le suffrage censitaire? Est-ce que tu veux garder, un petit peu conserver les trucs historiques ou quoi, ou l'ouvrir justement? Bref, donc voilà, tu peux un petit peu essayer de pousser l'histoire dans une direction différente de celle qu'elle a pris. Et voilà, donc tu es vraiment au tout début de cette révolution et ça te met un petit peu le contexte historique, etc. Donc ça te présente bien cette période pour ça. Mais j'ai assez peu joué, donc je saurais pas dire jusqu'où ça mène. Et je crois que le dernier que j'avais fait, c'est Consulat. Consulat, qui est un jeu. Alors lui, il a eu le prix spécial du jury, c'est ça ?
Ça, je sais pas, j'ai pas noté.
Non, il a eu le prix spécial pédagogie. Et c'est tout, effectivement. Il a eu le prix spécial pédagogie. Puisque, en fait, on joue un consul de la belle cité, évidemment, de Ponte-Rive. Pourquoi pas ? Et donc voilà, on est sollicité par des gens qui viennent nous demander des conseils, nous demander des choses, demander de l'argent, demander plein de choses pour l'évolution de la cité. Est-ce qu'on va soutenir, on va dire, telle communauté? Est-ce qu'on va donner de l'argent pour organiser une grande fête? Est-ce qu'on va, voilà, un petit peu tout ça. Donc il y a un côté un peu gestion, on va dire, un petit peu tour par tour. Et au début, je pensais que c'était un petit peu un truc à la Reigns. Je sais pas si tu vois ce jeu où à chaque fois tu swipes à droite ou à gauche avec la carte pour dire oui non. Là, c'est un petit peu plus complexe parce que tu as des fois 5 propositions différentes. Donner de l'argent, donner plus d'argent, pas en donner, insulter la personne qui est venue, en gros, pour lui dire bah non, d'où tu viens de demander de l'argent pour ton truc de païen. Enfin bref, t'as un petit peu ces différentes. Je schématise et j'invente, mais voilà, un petit peu ces différents niveaux de choix et d'implication. Donc voilà, puisque le but c'est de maintenir l'autonomie, la sécurité, la prospérité de la ville et, important, de terminer le chantier de la cathédrale.
Eh oui,
ce qui était effectivement, encore une fois,
la priorité.
Une vraie priorité, même historique, dans un grand nombre de villes en France. Le gros ouvrage qui filait du boulot à tout le monde pendant des générations. Enfin, l'importance des ouvrages, on va dire, des travaux publics, d'une certaine façon, que ça peut avoir sur une communauté et le travail que ça apporte. Et encore une fois, tu le disais, le sujet étant la France, c'est une bonne façon, je trouve, on a vu un petit peu différentes périodes, on a vu un peu là où les révolutions, on voit un peu le côté médiéval aussi. Je ne sais pas si, n'ayant pas tout essayé, je ne sais pas s'il y a des périodes où on remonte encore plus avant dans l'histoire de France, ou si on se rapproche beaucoup plus, finalement, de l'histoire contemporaine qu'on connaît, nous.
Mais ça, il faudra aller voir les jeux pour le découvrir.
Exactement. Exactement. Mais parce que voilà, j'ai pas eu le temps ni pris le temps d'aller tout voir. Mais il y en a un qui m'intéressait bien, c'était le maître des forges, rien que le nom. Parce que tu incarnes un ouvrier du Creusot qui travaille dans une usine métallurgique entre 1836 et 1870.
Oui, c'est ce que j'allais dire, ça c'est plus récent.
Voilà, on est déjà sur une. On évoquait déjà la révolution industrielle dans l'autre jeu sur la salubrité de la ville de Lyon. Là, on passe sur un autre rôle dans la même, globalement, la même période. Et finalement, cette diversité aussi, c'est vraiment toute la richesse de ces événements, de ces game jams de l'histoire, qui permettent d'aborder différents moments de l'histoire. Tu disais que c'est la quatrième édition?
Oui, c'est la quatrième édition de cette game jam qui se passe dans ce festival. Après, moi, j'ai jamais participé à la game jam des rendez-vous de l'histoire. Par contre, je connais bien les scientifiques game jam qui sont les autres game jam organisés par l'asso La Science Entre en Jeu. Donc, je ne sais pas si c'est le même fonctionnement, mais je sais que sur les scientifiques game jam, le concept, c'est qu'il y a toujours un chercheur ou une chercheuse au sein d'une équipe. Parce que le principe, c'est de créer un jeu autour de son sujet de recherche. Voilà, je ne sais pas si c'est la même chose avec les rendez-vous de l'histoire.
J'ai l'impression.
Je pense.
En fait, quand tu regardes sur chaque page des jeux, tu trouves à chaque fois on va dire le référent histoire.
Ouais.
Et derrière les graphistes, le sound design, etc. Mais tu as toujours effectivement.
Il me semble, mais c'est juste que j'ai pas revérifié l'info.
D'accord.
Mais il me semble bien que c'est un peu le même concept. C'est que là, on a un historien ou une historienne avec un sujet de recherche. Voilà.
Et effectivement, j'avais moi joué à des jeux, si le site veut bien fonctionner, j'avais joué à des jeux de la précédente Game Jam de l'histoire, et notamment je suis en train de chercher celui que j'avais beaucoup aimé. Alors, il y en a deux dans l'ensemble et l'histoire des game jams de l'histoire. Donc, en tout, il y a, je crois, une trentaine de jeux qui ont été faits dans toute l'histoire des game jams. Peut-être plus, je ne m'en rends pas forcément compte. Je sais qu'il y en a deux qui ont été poussés plus loin. Et notamment, on a Romanizer et Ex Decreto.
Oui, c'est vrai.
Ex Decreto, j'avais bien aimé. On est dans une sorte de... on n'est pas au Sénat, mais on a un rôle un petit peu de on va dire, décideur local dans l'Empire romain. Et du coup, on vient nous voir avec une sorte de juge, on nous présente des situations et on doit décider qui a raison, qui va être remboursé, qui va être... qui est le coupable dans une histoire, etc., par rapport aux éléments qu'on nous donne et par rapport à la loi aussi, telle qu'elle est écrite. Donc ça nous oblige à nous plonger dans les textes de loi, ça nous oblige à un minimum lire un peu et comprendre le contexte, savoir qui a un discours qui tient la route et qui a un discours qui se contredit pour savoir qui dit vrai, et en même temps donner la conséquence, la punition ou la récompense, entre guillemets, en fonction des lois en vigueur. Donc oui, celui-ci a été un peu poussé. Ouais.
Et ces deux jeux-là, ils ont une dimension aussi pédagogique, donc une volonté. Ils ont aussi été pensés pour être joués en classe. J'en suis sûre pour Romanizer, et je crois que c'est le cas pour Ex Decreto aussi. Mm-hmm. Donc voilà, c'est ça, ils ont aussi été pensés pour être des outils pédagogiques.
Et un autre jeu que j'avais bien aimé. Je crois qu'il tiré de la Game Jam l'année dernière, c'était Mission Nantes, où on remonte la Loire jusqu'à Nantes avec un bateau, et on doit prendre des ressources, enfin des marchandises, etc., qu'on va revendre dans la ville d'après, etc. Tout en on explore donc la Loire au XVIIe siècle avec les villes importantes de l'époque, etc., avec un côté un petit peu je dirais Tetris, où on doit trouver de la place pour les différentes marchandises dans la cale. On doit les caler en fonction de leur forme, etc. Donc il y a un petit peu ce côté-là aussi. Et un autre que j'avais beaucoup aimé, alors ambiance assez différente, qui est classé quand on regarde dans la liste des jeux de la science entre en jeu. Donc on peut, sur le site de la science entre en jeu, il y a un onglet jeu avec tous les jeux qui ont été faits dans tous les contextes. Et notamment, il y en a un qui s'appelle Droite 1968.
Oui.
dans lequel on rencontre des militants de droite en 1968. Et on doit donc plus ou moins les accompagner, ou non, vers la victoire de leur candidat en 1968, donc en plein milieu des mouvements revendicatifs et des mouvements étudiants et ouvriers. Et du coup, ça montre, c'est assez sympa dans l'idée, parce que tous les éléments qui constituent les journaux, les discours et les propositions, en tout cas les actions qu'on peut venir te présenter, c'est historiquement arrivé. C'est-à-dire que c'est des trucs qui ont été écrits, qui ont été proposés, qui sont arrivés, etc. Donc je crois qu'il y a un petit peu de contexte, etc., de qui était le qui poussait dans cette direction à ce moment-là. Donc c'est d'autant plus intéressant que c'est vrai, en fait.
Ouais.
Que c'est vraiment, on va dire, le discours de ce qu'on considérait politiquement la droite en 1968. Donc ça fait un petit instantané de la situation politique en France à l'époque.
Mmh.
Et voilà. Et donc j'en ai fait effectivement aussi quelques-uns comme ça. Les sujets sont assez variés de façon globale. Tu parlais des scientific game jam en général.
Là,
donc
c'est encore plus varié du coup.
C'est ça. Parce qu'on a de la biologie, de la chimie, on a des mathématiques, on va dire ce qu'on appelle les sciences auxquelles on pense. Alors du coup, sur le coup, des sciences plus scientifiques entre guillemets, dans le sens sciences dures, c'est un petit peu ce qui... Si on te parle de trucs scientifiques, tu peux peut-être penser à ça d'abord, mais effectivement, sciences humaines sont également très présentes, et c'est notamment l'intégralité du sujet des game jams de l'histoire.
Oui.
Mais pas que, du coup, parce que donc on peut parler géopolitique, on peut parler de pas mal de choses différentes, donc qu'ont pu être évoquées là-dedans. Et un dernier élément, ce que je voulais évoquer aussi, c'était les ludocamps.
Oui, tout à fait. Il y en a une prochainement. Donc les Ludocamp, c'est une résidence de création de jeux vidéo thématique sur une semaine. Ça se passe à Avignon, Du coup, c'est pas tout à fait une game jam, c'est différent. Donc la prochaine, c'est fin octobre.
Ouais, c'est très très bientôt, ouais.
Ouais.
C'est ce week-end, en fait.
Bah oui, en fait, on est quel jour? Oui.
on est le 22.
Non, c'est la semaine prochaine.
Ah oui, c'est la semaine du premier.
Ouais, en fait, j'ai noté les dates. Je vais lire ce que j'ai écrit, ça va être plus simple.
Sans vrai.
Donc du 27 au 31 octobre, c'est la phase de création de jeu. Et le 1er novembre, c'est la restitution, donc c'est-à-dire la présentation des jeux au grand public. Le thème de cette édition, c'est théâtre et spectacle vivant. Les jeux seront réalisés par des équipes formées autour de personnes qui travaillent dans le milieu du théâtre. Toutes les places pour participer à la résidence ont été prises, c'est complet. C'est important à signaler pour les personnes qui nous écoutent et qui se seraient dit « Oh là là, ça a l'air génial
!» c'est important de l'évoquer parce que c'est quelque chose qui risque de se reproduire sur d'autres sujets et que du coup, ça pourra les intéresser dans l'avenir.
Oui. J'ai pas noté le nombre d'éditions qu'il y a eu, mais c'est pas la première. Donc,
Il y en a eu une autre avant.
Ouais, je sais plus, je crois que c'est ça. Ouais.
Et le thème était la sécurité routière.
Ah oui. On en parlait avant l'émission.
Ouais, ouais c'est ça. Et j'avais aussi un petit peu abordé les jeux, en tout cas les propositions qui étaient sorties de ça. C'était donc, comme tu dis, une résidence où il y avait, bon, évidemment, des développeurs, toute la palette des compétences nécessaires à faire un jeu vidéo, mais également donc la participation de personnes dont le métier est faire de la prévention à la sécurité routière. Et ce qui a donné en fait différentes propositions. Avec des jeux que j'avais fait en stream à l'époque, il y avait My Dad's Car, où on incarne en fait un enfant qui voit comment ses parents en fait se comportaient en voiture. Donc avec évidemment des comportements pas forcément très sécurisés, à pas forcément regarder la route, à s'engueuler, à conduire vite, sans ceinture, etc. Enfin vraiment dans c'était ce qu'on appelle une autre époque. Hein, oui. Mais du coup ça, on voit la personne grandir.
Ouais.
Et fatalement reproduire aussi certains comportements. Mais l'expérience qui m'avait vraiment, vraiment beaucoup marqué, en tant que jeu vidéo déjà, et en tant que finalement le sujet aussi lui-même et la façon dont il est abordé, c'était le jeu qui s'appelle Double Peine, dans lequel, je vais l'ouvrir, ce sera peut-être d'autant mieux. Donc voilà, c'était la Ligue contre la violence routière qui participait là-dedans, pour être précis. Donc voilà, l'histoire racontée est fictive, mais elle est
inspirée
d'expériences, ouais. Etc. Dans lequel, en fait, alors c'est pas précisé sur la page du jeu, mais de mes souvenirs, parce que j'ai fait le jeu, en gros, on est un enquêteur qui doit revenir sur une histoire, effectivement, d'accident de la route qui a ôté la vie à quelqu'un, où on doit revenir un petit peu sur l'enquête policière qui avait été faite, parce que je crois qu'on est pas un agent d'assurance, mais quelque chose dans le genre, en fait, qui doit déterminer les responsabilités de chacun dans l'histoire, et qui doit donc rouvrir un dossier qui est encore douloureux pour ceux qui l'ont vécu et qui ont survécu. Et donc, c'est aussi pour ça que ça s'appelle Double Peine, c'est que il y a la personne qui a été considérée comme responsable de l'accident a énormément souffert physiquement de l'accident, parce qu'elle est tombée dans le coma suite à ses blessures, etc. Enfin, a eu énormément de mal aussi à se reconstruire aussi derrière. Il y a eu, et en fait, c'est tous ces éléments-là qui sont pris en compte. La faiblesse, je dirais, des éléments relevés dans l'enquête policière. Sur les lieux, sur les vitesses, sur des erreurs factuelles dans les plaques d'immatriculation, dans les positions, dans les vitesses, dans l'heure, ce genre de choses en fait qui étaient factuellement faux dans les documents, au point que j'avais fait la remarque à ce moment-là en disant bon le comportement on va dire le retour de l'action des policiers était très caricatural, un petit peu en mode bon vraiment ils savent rien faire, ils savent même pas écrire. On m'avait répondu non mais on a été doux, on a clairement des dossiers où ça a été bien pire que ça dans la façon de traiter la scène. En fait, l'analyse de la scène pour déterminer les responsabilités, le suivi, l'information auprès des différentes personnes, la façon dont les familles des victimes ont été prévenues. Parce que ça aussi, ça a été une des questions qui a été évoquée très clairement, que prévenir la famille de quelqu'un où il y a eu quelqu'un qui est décédé dans un accident de la route quelques minutes, quelques heures avant, c'est la façon simplement de l'exprimer auprès de quelqu'un, c'est pas facile. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je ne sais pas comment je ferais. Ouais. Mais bon, bah forcément, ça participe finalement à la douleur et à l'expérience globale en fait de la perte, parce que c'est la façon dont on te l'a appris. Et si effectivement, ce ne sont pas forcément des gens qui sont formés à ça, qui savent le faire avec avec les mots en fait. Bon, il n'y a jamais les bons mots pour le dire, mais il y a des mots pire que d'autres, oui. On va dire ça comme ça, des contextes plus compliqués que d'autres, et voilà les sujets en tout cas qui sont abordés dans ce jeu, dans lequel en fait on est un petit peu dans une sorte de je sais pas si tu connais les Case of the Golden Idol,
si, ouais.
Et où on doit analyser une situation, et alors là spécifiquement c'est des textes à des choix déroulants, okay. Des menus déroulants où on doit choisir finalement la bonne réponse au milieu de différentes propositions, notamment les noms des gens par rapport à qui conduisait telle voiture, qui était à telle vitesse, qui était à tel endroit, qui faisait ça, qui revenait du boulot, qui partait, qui revenait de soirée, etc. Donc on doit remplir finalement avec les informations qu'on nous donne auprès de, sous forme de rapport et sous forme de dialogue, puisqu'on va rencontrer les gens et donc on va finalement revivre avec eux ces moments-là. Donc on est quelques mois, quelques années, je crois, après. Donc voilà, il y a un petit peu toute cette approche finalement, et je trouve que le titre aussi Double Peine est très bon,
ouais.
Parce que il amène la douleur du moment, la douleur, la violence du choc et la violence de tout ça, et le fait de devoir encore revenir dedans, et le fait pour la personne qui a été considérée comme responsable de l'accident d'être considérée comme coupable d'un truc, d'avoir tué quelqu'un par tout le monde autour. Enfin, c'est tout ça qui est pris en compte. Évidemment que il y a des comportements beaucoup plus risqués que d'autres, etc., et que ça peut avoir ce genre de conséquences, mais c'est intéressant que ce soit malgré tout évoqué, comment se mettre un peu à la place aussi de tout le monde pour justement ajuster peut-être ses propres comportements derrière. Et je trouve que le jeu est bien fait pour ça, pour te montrer finalement le combien de temps durent les conséquences de ce genre de choses. Enfin, évidemment, quand tu es du côté des personnes qui vivent le deuil, les conséquences ne s'arrêtent jamais. Mais toutes les personnes autour et notamment celles qui ont survécu au drame sont aussi touchées. Et pour ça que le jeu, je l'avais trouvé vraiment très bien foutu, et je trouve du coup que le ludocamp autour finalement d'une thématique de ce genre, et accompagné comme ça par des gens dont c'est le métier, quoi, de vraiment d'analyser, d'accompagner, de penser autour de la sécurité routière et finalement de la violence routière. C'est précisément le genre, je trouve, de produit, de jeu, de façon un petit peu ludique, de vraiment te mettre dans le contexte et dans la situation.
Oui, 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 c'est des jeux qui font réfléchir, tout simplement, en fait. Enfin,
Et c'est un bon résumé, finalement, du projet global des Scientific Game Jam, un petit peu.
C'est vrai.
T'amener, finalement, à te poser des questions sur des sujets. Comme tu disais, sur des sujets de recherche, que ce soit historique, que ce soit mathématique, biologique ou quoi, de façon de te montrer que le sujet en question, ça peut être de façon très rigolote ou très sérieuse.
Ça peut être s'interroger, ou comme ça peut être tout simplement découvrir des domaines qu'on ne connaît pas, avec des sujets parfois très très pointus, parce qu'en général les sujets de recherche c'est plutôt assez spécifique. Donc ouais, plus le côté aussi apprentissage, curiosité et tout ça, quoi. Mais du coup, cette thématique de la ludocamp de l'année dernière était une thématique assez lourde, et qui du coup ont fait des jeux forcément qui sont assez difficiles émotionnellement aussi, mais
forcément.
Là du coup ce sera a priori beaucoup plus léger, vu que, comme je le disais tout à l'heure, c'était le théâtre,
je crois que c'est le théâtre,
hein. comment c'était écrit, merde, je retrouve pas ma note. Théâtre et spectacle vivant, ouais, c'est ça, tout simplement.
Okay.
Donc voilà, ça reste assez large.
Assez ouvert, ça peut être effectivement, comme tu dis, très 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 joyeux, très très festif. Comme finalement, ça peut aussi nous parler de la situation actuelle, de tout ce qui
des monde, travailleurs du et travailleuses,
bien sûr, intermittents du spectacle, ou tous ceux qui font partie de ce qui constitue finalement un spectacle vivant.
Tout à fait. Et donc pendant les Ludocamp, il y a des temps de conférences qui sont prévus. En fait, je regardais le programme. Du coup, il prévoit pour celles et ceux qui veulent des temps de balade et de promenade le matin pour découvrir un peu Avignon, tout ça, avec des temps conviviaux, justement, avec tous les membres des équipes. Et puis, évidemment, des temps de travail pour créer des jeux, mais aussi des temps de conférences avec du coup des intervenants et intervenantes qui viennent parler de leur métier, tout ça.
Mais c'est vrai que c'est une des vraies aussi préoccupations des Scientific Game Jam aussi, globalement, c'est de ne pas être en mode comme certaines game jams qui sont sur un temps extrêmement limité, où c'est du crunch pendant 48 heures.
Voilà,
comme
du coup,
on a pu. C'était un petit peu l'historique finalement de ça. Il y avait eu certains discours en mode les game jams, c'est rigolo, c'est sympa parce que tu rencontres des gens, tu produis des trucs, des fois tu sors des concepts.
C'est super, c'est hyper formateur.
C'est ça.
Ça permet d'apprendre à travailler en équipe, ça permet de toucher un peu à tout aussi, plein de choses.
On a vu, même à l'Indie Game Lyon, on a vu des jeux dont le concept avait été pondu en game jam qui vont jusque...
Typiquement, c'est ce que fait la Guillotine. La Guillotine fait beaucoup de game jam et derrière, quand ils ont un concept qui marche bien, ils le développent pour en faire un vrai jeu derrière. Mais oui, tout à fait, c'est... les game jams, c'est souvent synonyme de crunch, mais pas dans les game jams organisés par la science entre en jeu. Ils répètent systématiquement que à partir d'une certaine heure, c'est terminé, faut aller se coucher.
On pose les crayons.
Alors après, ils font des game jams en physique et ils font aussi des game jams en ligne sur un espace virtuel. Et du coup, à ce moment-là, ils disent à tout le monde d'aller se coucher, mais ils peuvent pas vérifier que tout le monde le fait effectivement.
Mais
en tout cas, pour la Game Jam de Lyon, parce que j'y vais aussi, alors je participe pas, mais en fait j'ai eu l'occasion d'être jury ou bien mentor pitch sur diverses Game Jam en présentiel et en distanciel. Et du coup, celle qui se passe à Lyon, juste concrètement, en fait, on ferme le lieu, on verrouille tout et du coup, on met tout le monde dehors. Donc,
il n'y a pas le choix.
Voilà, rentrez chez vous.
Mais c'est bien parce qu'effectivement.
C'est important de se reposer.
C'est important de. Finalement, de pas perpétuer peut-être une ambiance, ce rythme en mode ça ne s'arrête jamais et ça te prépare à la réalité dans les studios de jeux vidéo qui a pu peut-être un petit peu permettre de considérer que c'était la normalité finalement de travailler dans ces conditions et quelque chose qui est beaucoup beaucoup remis en cause aujourd'hui et tant mieux.
Et en même temps les écoles privées, les écoles de jeux vidéo en tout cas certaines encouragent les étudiants à faire du crunch etc. et donc c'est très important qu'il y ait
d'autres espaces
en parallèle,
exactement,
un discours opposé ou en disant non, c'est pas normal en fait de faire du crunch et c'est important de prendre soin de soi et c'est important de se reposer parce que on n'est pas plus efficace en travaillant toute la nuit, au contraire. Donc c'est important.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est une approche de la game jam qui est à souligner et à saluer. Pour être complet sur les Scientific Game Jam cette année, il y en avait donc il y avait un certain nombre de lieux où des game jams étaient organisés. Donc, je crois que c'était différentes, divisions, c'était la Scientific Game Jam dans son ensemble qui se passait dans différents lieux.
Oui.
Il y en a eu à Nancy, il y en a eu à Strasbourg, donc à Lyon, évidemment, à Toulouse, à Avignon, à Montréal, et à Nantes, était la dernière de l'année, entre guillemets, ça s'est passé donc de fin février à fin avril. Toutes ces game jams se sont passées sur ces différentes périodes. Et ça, c'était juste en 2025.
Oui.
Plus
il y en a.
oui, parce que ça SM. Parce que il me semble qu'il y avait aussi il y avait Grenoble aussi à une époque, qui faisait un peu pas partie des pionniers dans la création des Scientific Game Jam, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, c'est quelque chose qui existe depuis maintenant quelques années et qui est toujours aussi intéressant à suivre quand on est, public extérieur, parce qu'il y a, encore une fois, des sujets vraiment extrêmement variés, des trucs qu'on va découvrir, des trucs qu'on va approfondir parce qu'on avait déjà des infos dessus ou quoi.
Ouais.
Et c'est toujours intéressant parce que ça peut aussi créer pas forcément... le développement de la continuité du même projet qui avait été développé, mais des gens qui peuvent se rencontrer et se trouver des affinités professionnelles, des compétences qu'ils ont envie de développer ensemble ou quoi, et ça peut donner des choses des choses qu'on revoit quelques années plus tard sous la forme d'un autre jeu.
Mais, oui, complètement.
Donc,
il y a potentiellement des vraies rencontres qui se créent. Ouais, c'est sûr. Et moi, ce qui me passionne à chaque fois, c'est de voir comment, à partir du sujet de recherche, l'équipe a su inventer un concept de jeu pour aborder ce sujet-là, qui est, comme je disais tout à l'heure, qui est vraiment très pointu à chaque fois, parce qu'un sujet de recherche, il faut qu'il soit très pointu et très précis. Et du coup, c'est hyper intéressant de voir comment ils arrivent à trouver un gameplay, un concept, tout ça autour de ces sujets. Je trouve ça très, très, très intéressant à chaque fois.
C'est vrai que c'est... Alors, j'ai aucune compétence en création de quoi que ce soit. Je servirai à rien dans n'importe quelle équipe et n'importe quel poste dans ce genre de truc, mais je serais curieux de voir effectivement les discussions préliminaires au début du travail. En fait, t'arrives et tu dis, mon sujet de recherche, c'est, comme je disais tout à l'heure, la Loire au XVIIe siècle, enfin, le commerce sur la Loire au XVIIe siècle. Et, ouais. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on fait, tu vois, qui vient avec l'idée, est-ce que le chercheur en lui-même a déjà, tu vois, une progression, tu vois, un point de départ et un point d'arrivée dans lui, sa façon d'aborder le sujet qui peut déclencher finalement l'idée de gameplay. Est-ce que c'est les game designers qui sont des machines à idées, parce que c'est clairement qu'ils apprennent à faire et que le rôle demande. C'est des choses que j'aimerais juste pour voir, en fait, juste être là pour écouter et comprendre un peu comment la dynamique
se fait.
En plus,
chaque équipe est... Enfin, à chaque fois, ça se passe différemment, j'ai envie de te dire.
C'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant de voir le résultat. Et encore une fois, le timing fait que des fois, ça donne des choses, on va dire, techniquement pas forcément extrêmement développées. Parce que ce soit graphiquement, que ce soit quoi que ce soit, mais des fois tu vois vraiment le potentiel de l'idée. Là, je parlais tout à l'heure du jeu sur le héritage, du jeu sur la langue, où tu peux vraiment. Alors il faut prendre quelqu'un qui va lire des phrases en vieux français, en mélange de latin, de trucs. Mais tu peux faire quelque chose de beaucoup plus étendu, en fait, que ça. Le concept est là.
Ouais.
Et c'est un des concepts qui m'a le plus convaincu en termes de jeu. Et que j'aimerais beaucoup voir. Mais après, j'aime beaucoup les jeux d'énigmes et de déduction. Donc là, on est vraiment dans cette démarche-là. On te donne des informations. Tu dois écouter et aller piocher dans les informations, dans les tableaux qu'on t'a donnés pour trouver la bonne combinaison. Et ça, c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup. Et basé sur l'histoire de la langue française, je suis vraiment quelqu'un d'intéressé sur l'évolution des langues, etc. Donc, c'est ce genre de concept. Finalement, alors en plus de ça, celui-là est très bien réalisé. Il y a vraiment des belles choses. On est au-delà de simplement juste des boutons pour. Ils ont vraiment fait des dessins de trucs. Ils ont vraiment fait un enrobage que j'ai trouvé très réussi. Mais oui, c'est le genre de concept que tu peux décliner sur plein de sujets. Finalement, là, c'est ce sujet de la langue, mais t'aurais pu le faire sur d'autres sujets historiques. En fait, cette façon d'aborder et de t'apprendre finalement à déduire les choses, parce que encore une fois, c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est quand tu dois réfléchir au sujet toi-même et trouver la réponse. C'est la meilleure façon de retenir. Le cerveau fonctionne comme ça, en fait. Le cerveau il aime bien qu'on le sollicite, et c'est comme ça qu'il retient et qu'il apprend.
Ouais, c'est vrai. Ouais, mais du coup le temps file et c'est vrai que j'aurais aimé qu'on puisse parler du rapport du sel, mais c'est pas grave, écoute, comme ça j'ai déjà préparé l'émission de la semaine prochaine.
Et parfait. nickel. Et oui, ce sera le jeudi 30 octobre.
Ah mais non, mais c'est l'émission qu'on fait avec notre invité.
C'est ce que j'allais dire.
Et ce sera pour encore après.
Parfait. Mais écoute, du coup, on a une minute, c'est l'occasion parfaite de vous teaser l'émission de la semaine prochaine avec quelqu'un que je suis très très content de recevoir.
Ouais, voilà, on n'en dira pas plus. Ah, mystère.
Quelqu'un qui avait présenté son jeu à l'Indie Gamion cette année et qui était une proposition intéressante et originale et importante.
Ouais.
Aussi.
Et du coup, on va pouvoir aborder plein de sujets par le biais de ce jeu. Donc oui, ça va être chouette. Je suis très contente aussi qu'on puisse l'avoir dans l'émission. Ça va être cool.
Et voilà, avec tout ce teasing, vous n'avez pas le choix. Il faudra être là la semaine prochaine, en direct ou en replay. Mais on sera là jeudi prochain à 21h sur Radio Canu avec notre invité.
Notre invité mystère.
C'est ça, le retour de Xavier.
Oh, pff, peut-être pas, ça dépend.
Ça y est, t'as décidé, tu l'as foutu dehors, c'est réglé. Et donc, toi, avec grand plaisir, Bettina. Et,
oui.
Et puis, je serai là aussi.
Bah oui, avec
toujours derrière les manettes.
Sans toi, l'émission n'existerait pas, Romain.
Mais si personne pour appuyer sur le bouton, on passe pas à l'antenne. Faut bien. Et au moins, je serai à quelque chose. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à toi, Bettina. C'était intéressant, finalement, de parler de tout ça.
Bah oui, c'était très cool de rebalayer un peu tous ces jeux de jam, certains que j'avais pas eu l'occasion de voir passer. C'était très cool.
Ouais, pour parler un peu du concept, etc. Oui. Et puis, on aura l'occasion d'en reparler. Et ce sera avec grand plaisir d'en reparler aussi avec Paul.
Ouais.
Puisque, on commence à le connaître un petit peu maintenant.
Oui.
Et qu'on l'avait reçu il y a 2 ans, juste avant, juste avant les Game Jam de l'histoire, déjà de septembre, il y a 2 ans. Donc 2 ans ou 3 ans. Je suis en train de me poser la question. On vieillit. On se souvient plus de rien.
Non.
Bon. Passez une bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine.
À très bientôt.
Salut.